Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 770 000 personnes sont concernées par ce qu'on appelle les troubles dys. Laurent Wauquiez, président de la région, a donc annoncé que ces troubles cognitifs spécifiques entravant l'apprentissage seront la grande cause régionale 2017. Pour en parler, je reçois Nicole Philibert, coprésidente de l'association Distinguons-nous. Bonjour.
Bonjour.
Ces troubles touchent en moyenne 3 enfants par classe. La région a décidé d'y consacrer un livre blanc. Avant de revenir plus spécifiquement sur ce que sont les troubles dys, déjà, en quoi est-ce une bonne nouvelle pour vous ?
C'est la première fois qu'une région s'occupe des troubles dys et décide d'agir pour les faire connaître. Jusqu'à maintenant, c'était les associations qui œuvraient avec du succès qui était grandissant mais qui était insuffisant par rapport au nombre de personnes concernées. Et on est ravis que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse à ces troubles et les fasse connaître.
Alors on l'a dit, il s'agit de troubles cognitifs. C'est en fait un fonctionnement cérébral atypique. On connaît un petit peu mal la dyslexie, mais plus généralement, comment se manifestent ces troubles ? D'où ils viennent finalement ?
C'est-à-dire on est NIT 10 et on est EST 10 toute la vie. C'est notre cerveau qui, en se développant, présente certaines particularités et il n'arrive pas à automatiser certaines choses qu'on fait autrement naturellement. C'est-à-dire, quand je lis, je suis capable d'avoir tout à fait rapidement l'accès au sens de ce que je lis. Quelqu'un qui est dyslexique, par exemple, va arriver à lire, mais l'accès au sens va être beaucoup plus difficile pour lui parce que, pour déchiffrer les lettres, il va passer un petit peu plus de temps. Ça ne va peut-être pas se voir quand il est adulte, parce que ça se passe très très vite, c'est de l'ordre de la milliseconde pour déchiffrer, mais quand il est enfant, ça se voit beaucoup plus et ça le pénalise dans l'apprentissage de la lecture. Pour la dysphasie, le trouble du langage oral, de la communication orale, c'est un non-automatisme de la compréhension. Quand je vous parle, aussitôt vous réalisez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a une dysphasie va mettre beaucoup plus de temps pour réaliser, pour comprendre. C'est un petit peu comme si vous étiez toujours dans un pays étranger alors que vous ne maîtrisez pas la langue étrangère. C'est le même genre d'exercice qu'une personne dysphasique fait continuellement. La dyspraxie, c'est un trouble du geste, c'est un non-automatisme du geste, c'est-à-dire que la personne va toujours être obligée de se concentrer pour faire attention à faire le geste correctement. Donc elle aura des difficultés pour en faire une autre chose à la fois. Puis la dyscalculie, c'est une non-maîtrise du calcul, du rapport entre le nombre, tel qu'il est, par exemple le chiffre 9, et la quantité qu'il représente. Ça peut être très pénalisant adulte quand on fait des chèques, par exemple, quand on manipule tout son argent, et puis aussi pour se représenter les distances et même pour s'orienter.
On comprend bien que ce sont finalement les fonctions de base, les fonctions élémentaires. C'est pour ça que c'est repéré généralement à l'école ?
Oui. Les premiers signes apparaissent très souvent. Enfin, pour la dyspraxie et la dysphasie, les signes apparaissent même avant l'école, parce qu'on peut faire attention à ça à la crèche ou même à la maison. Pour la dyslexie, ça apparaît vraiment dans l'apprentissage de la lecture. Au niveau du CP ou de la grande section maternelle, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ça peut être un retard simplement qui va se compenser avec de la rééducation. Mais si ça persiste malgré de la rééducation, il faut s'interroger beaucoup plus.
Vous parlez de rééducation, vous parlez de s'interroger. Aujourd'hui, les troubles dys sont mal compris, y compris par les parents eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on connaît mal ?
Oui. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut dire à un enfant « fais attention, applique-toi » pour que ça marche tout seul. Mais le problème, c'est qu'un enfant, il veut bien faire, mais il n'y arrive pas. Et ce n'est pas parce qu'il ne s'applique pas, au contraire, il va s'appliquer beaucoup plus. Et ça provoque de gros problèmes d'estime de soi, parce que l'enfant va s'appliquer, ne va pas y arriver. On va le disputer, enfin je vais mettre ce mot entre guillemets, parce que ça peut aller du petit nom d'oiseau gentil au petit nom d'oiseau très méchant. Donc l'enfant va être très mal, il va grandir avec une perte d'estime de lui. Et ces répercussions qui sont secondaires aux troubles peuvent impacter la vie d'une personne toute la vie. À l'heure actuelle, on a beaucoup d'adultes qui ont été impactés par ces troubles, qui le sont toujours, et c'est la souffrance qu'ils ont eue toute leur vie qui ressort plus que la gêne du trouble par elle-même.
Aujourd'hui, on ne guérit pas d'un trouble 10 ?
Non. On est et on reste 10. Seulement, notre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il se transforme, qu'il peut acquérir des connaissances, donc on va compenser. plus tôt on va faire de la rééducation, plus tôt notre cerveau va pouvoir compenser le mieux possible. Mais il va toujours rester de la fatigue et de la lenteur toute la vie pour faire certaines actions très spécifiques.
On imagine que comme ça a un lien avec le cerveau, il doit y avoir quand même des avancées médicales, des avancées du coup dans la neuroscience à ce sujet-là. Quelles sont-elles ? Où en est finalement la médecine ?
On a énormément de chance parce que Lyon est un centre reconnu avec l'INSERM pour les avancées neurocognitives sur la recherche, sur les troubles 10 spécialement. Tous les ans, on a d'ailleurs des chercheurs qui viennent à la journée des 10 pour faire voir les dernières avancées. Et cette année, dans le cadre de la grande cause régionale, ils sont à nos côtés pour nous aider à mieux faire connaître ces troubles.
Et aujourd'hui, quelles sont peut-être finalement les avancées majeures ? Où on en est aujourd'hui médicalement, finalement ?
Médicalement, il faut qu'il y ait de plus en plus de médecins qui soient formés. Malheureusement, ce n'est encore pas dans la formation initiale ni dans la formation continue des médecins. Donc ça pose de gros problèmes parce que très souvent le médecin généraliste de quartier ne sait pas reconnaître le trouble 10. Il va demander un bilan orthophonique parce que il en a entendu parler, mais ça ne suffit pas, il peut y avoir d'autres bilans qui peuvent être nécessaires.
Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression, quand on a la sensation que notre enfant, ou même soi-même en étant adulte, si on n'a pas été dépisté avant, quand on a l'impression qu'il y a un problème de trouble 10 ?
Théoriquement, on va voir son médecin généraliste. Là, ça peut poser un petit peu problème. Mais je dirais qu'il faut aussi aller voir les associations de familles qui peuvent conseiller sur le chemin à suivre. Le chemin, théoriquement, c'est bien le médecin généraliste qui va demander différents bilans après un questionnaire sur les difficultés que l'on rencontre, donc des bilans orthophoniques, très souvent. Ça peut être aussi un bilan en ergothérapie, ça peut être un bilan en psychomotricité. Il peut y avoir d'autres bilans. Ça, c'est le rôle du médecin généraliste. Au vu des bilans, le diagnostic peut être posé.
Il peut y avoir plusieurs stades, j'imagine, dans ces troubles 10, de la dyslexie assez légère à quelque chose de beaucoup plus paralysant, handicapant.
Oui, et là, c'est uniquement avec les bilans faits par les professionnels qu'on va pouvoir déterminer le degré du trouble par lui-même.
Les enfants sont encore souvent repérés à l'école, mais ils sont parfois pris en charge tardivement. Pourquoi, finalement ? Est-ce que ça tient du professeur qui n'arrive pas forcément à repérer ses troubles, qui n'arrive pas à adapter ses cours, ou vraiment simplement des médecins qui ne reconnaissent pas ces troubles-là ?
Alors, le problème est multiple. Déjà, ça tient à notre civilisation, parce qu'on pense que quand on veut, on peut. Descartes avait séparé la raison des émotions. Maintenant, il est prouvé que Descartes a fait une erreur. Et que Spinoza, lui, qui disait que émotion et raison sont liées, a tout à fait raison. Et ça, ce sont les neurosciences qui l'ont prouvé. Donc, on veut apprendre aux enfants en leur disant « tu vas faire ci, tu vas faire ça et tu vas le faire ». Mais on ne se rend pas compte qu'un enfant qui est en difficulté, ses émotions vont aussi jouer dessus, ce qui va encore plus le surhandicaper. Donc, il faut vraiment que notre société en général prenne conscience de cela pour que la bienveillance s'installe de partout, particulièrement dans les classes. Malheureusement, il manque de la formation aux enseignants. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de l'éducation nationale, mais il y a aussi la relativité du temps. On va dire que le temps pour un enseignant n'est pas le même que pour un élève qui va peut-être être obligé de redoubler s'il n'arrive pas à suivre parce qu'il n'a pas eu d'aménagement. Il faut que l'état d'esprit général change.
C'est ce que vous attendez finalement de cette nomination grande cause, de ce livre blanc, ce changement d'état d'esprit ?
Oui, on espère vraiment parce qu'il y a des textes de loi qui existent grâce aux associations qui sont montées au créneau régulièrement. Des textes de loi existent, mais malheureusement, entre le texte de loi qui est sur le papier et l'application sur le terrain, il y a une grosse différence. On espère que cette avancée, grâce à la prise en compte de la région par le biais de la grande cause régionale, va permettre de faire ressortir l'écart qu'il y a entre l'application et le texte et va permettre aussi de donner des pistes de solutions pour que cet écart se résorbe.
Quelle piste de solution est-ce qu'on peut déjà ? J'imagine que vous, en tant qu'association Distinguons-nous, vous avez déjà des pistes un petit peu de réflexion, des choses que vous aimeriez mettre en place. Quelles sont-elles finalement ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de troubles 10 ?
Il y a déjà une piste qui a été faite par la région, qui a réuni déjà les experts le 9 mars. Et il en est ressorti ce que les associations disent depuis très longtemps, c'est qu'il faut absolument croiser les regards, que les professionnels, quels qu'ils soient, que ce soit de l'éducation, que ce soit les professionnels de la rééducation, que ce soit les médecins, que ce soit le médico-social, que ce soit les associations, les chercheurs, arrivent tous à se rassembler, à discuter ensemble pour voir chacun l'endroit où ça coince un petit peu. Parce qu'un regard multiple sur l'endroit où ça coince peut permettre justement d'enlever cette petite épine qui peut être formidablement anxiogène pour les enfants.
Quel rôle est-ce que la famille a joué là-dedans ? Les troubles 10 ne se guérissent pas, mais au moins pour peut-être atténuer leur expression au quotidien ?
Alors je dirais que le rôle de la famille, c'est le même rôle que chacun des intervenants, c'est d'abord être bienveillant. Et c'est d'arrêter de vouloir plus que ce que l'enfant peut faire. Un enfant est extraordinairement capable du moment qu'il est porté. Et si on le félicite, si on met en avant ses capacités, au lieu de toujours le mettre face à ses points faibles, il va arriver à contourner ses points faibles beaucoup plus facilement. Donc de la bienveillance de partout. Le rôle de la famille est quand même compliqué, parce qu'à l'heure actuelle, la famille doit faire le lien de partout, elle doit s'informer, doit faire le lien entre l'école, entre le médico-social, quand il y a du médico-social qui rentre en ligne de compte, entre les médecins, entre les rééducateurs. C'est astreignant, c'est énergivore. Et il y a des familles qui peuvent éclater à cause de ça. Parce que quelquefois, une personne de la famille doit être obligée d'arrêter son travail ou de réduire son temps de travail pour pouvoir accompagner correctement son enfant. Un autre problème, c'est que toutes les rééducations, je pense à l'ergothérapie, à la psychomotricité, ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc, en fonction des revenus qu'on a, on peut plus ou moins bien accompagner son enfant et l'aider plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose, on espère que la grande cause régionale va faire ressortir ce point et qu'il y aura des solutions.
Ça fait 10 ans maintenant qu'il y a des journées nationales des 10. 10 ans après, vous listez encore tout un tas d'urgences, une dizaine d'urgences. Quelles sont-elles, ces grandes urgences à traiter ?
D'abord, c'est le dépistage précoce. Parce que il y a des troubles qui peuvent s'exprimer à la maison, à la crèche, dans un centre aéré. Il faut que tout le monde puisse repérer ces troubles. Je dis bien simplement les repérer. Après, il faut le diagnostic. Le diagnostic, ça sera donc fait grâce aux médecins qui doivent être formés, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc il y a urgence de ce côté. Après, il faut trouver le bon professionnel, pas trop loin du lieu où on habite, parce qu'il y a des familles qui font facilement 20 km ou même plus pour aller voir un ergothérapeute ou quoi que ce soit quand ils habitent à la campagne. C'est pas simple, c'est souvent sur du temps de travail. Il y a ce problème de distance et puis de toute l'énergie qui est consacrée par les familles, parce qu'il faut refaire faire les devoirs aux enfants le soir, donc ça prend du temps. Il faut un suivi efficace, le parent ne peut pas tout gérer tout seul. Il faut qu'il puisse trouver des personnes qui l'aident dans ce suivi. Il faut vraiment une formation aussi bien des enseignants, que ce soit formation initiale, formation continue, formation aussi des médecins, c'est capital. Il faut la garantie d'avoir des aménagements scolaires qui soient faits et qui soient suivis d'une année sur l'autre, parce que malheureusement, quelquefois, eh bien, une année, on peut avoir des aménagements qui sont bien faits, puis l'année d'après, ben, on n'en a plus. Donc on a des parcours scolaires qui sont en dents de scie, des enfants qui redoublent. Puis on sait très bien que si un enfant redouble, eh bien, ses chances d'atteindre le bac sont diminuées. Et puis il y a le problème aussi de l'insertion professionnelle, du maintien dans l'emploi, parce que ce sont des jeunes qui ont des capacités, qui ont des talents, qui sont plus fatigables et qui, quelquefois, eh bien, au bout d'un certain temps, on se dit bah, finalement, il ne fait pas bien l'affaire. Mais peut-être parce qu'il n'a pas été diagnostiqué ou parce que l'entreprise, ne sachant pas qu'il y avait un trouble 10, n'a pas été capable de mettre en place des aménagements correspondants. Et puis surtout, il y a tout ce qui n'est pas pris en charge au point de vue coût des rééducations, comme on l'a abordé avant, et puis le manque de bienveillance. Et ça, c'est capital.
Vous nous parliez des aménagements scolaires notamment, mais aussi en entreprise. On parlait hors antenne notamment des tiers-temps lors des épreuves scolaires. Et vous nous disiez que finalement, ce n'est pas forcément suffisant ou en tout cas adéquat en fonction des troubles 10. Il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui, qui ne sont pas cohérentes dans la situation actuelle.
Disons, quand on a un trouble 10, on est déjà fatigable parce qu'on est plus lent. Donc, quelqu'un qui passe par exemple une épreuve de 4 heures pour un examen, si on lui met un tiers-temps, rajouter 1h20, ça fait une épreuve qui dure 5h20. S'il n'a pas appris à se servir de tiers-temps pour faire des pauses, pour arriver à gérer, à se relaxer, il n'y arrivera pas à tenir 5h20 sur une chaise. Je ne sais pas si vous le faites, mais en règle générale, on a besoin de se dégourdir les jambes, de se reposer. Donc le tiers-temps est une des solutions, mais ce n'est pas forcément la solution miraculeuse. À l'heure actuelle, On a toujours tendance à vouloir une solution en se disant on va prendre cette solution, ça va marcher et je serai tranquille. Non, il faut qu'on se creuse tous un petit peu les méninges pour dire eh ben, il y a plusieurs solutions et puis je vais faire de la broderie pour pouvoir aider la personne en face de moi à révéler ses capacités. Parce que les 10 sont tous des talents.
Finalement, ça peut être quoi ces exemples concrets d'aménagement? C'est un ordinateur pour quelqu'un qui a un petit peu du mal? Qu'est-ce que ça peut être concrètement?
Ça peut être un ordinateur, il y a plein de logiciels. Et puis, les progrès en informatique maintenant font qu'il existe de plus en plus de ressources. Ça peut être le tire-temps, je ne l'élimine pas quand même. Ça peut être apprendre à gérer son stress, parce que les enfants 10 sont souvent très stressés. Et il y a plein de solutions.
Vous, c'est l'association Distinguons-nous. Vous êtes une association qui a été créée un petit peu en amont de la précédente Journée nationale des 10. Votre rôle, c'est de faire connaître la cause 10 au grand public. Vous n'êtes pas une association de parents, de famille.
Non, on est tous originaires d'associations de famille. Parce qu'on est tous, si on est là-dedans, c'est qu'on a tous été concernés par des enfants ou nous-mêmes. Il y a des parents aussi qui le sont, par un trouble 10. Donc on connaît bien les troubles 10. Le souci, c'est que les associations de famille sont assaillies de demandes de familles qui veulent des solutions et qui ont besoin d'aide pour être accompagnées. Donc, organiser un événement tel que la Journée des 10 est aussi énergivore, puisqu'on reçoit de plus en plus de monde. L'année passée, il y a eu plus de 2700 personnes qui sont venues sur une journée à Lyon. Donc, on a monté une association qui est dédiée à l'organisation de cette journée et plus généralement, pour faire connaître les troubles 10 au grand public. Donc vendredi dernier, on a fait une pièce de théâtre à la région, dans le cadre de la grande cause régionale. On a participé parce que la pièce de théâtre a été faite par la compagnie Happy Gun, qui l'a faite bénévolement, pour faire connaître les troubles 10 d'une façon un petit peu originale.
Forcément, j'imagine que vous préparez déjà la prochaine journée nationale des 10. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est en projet pour cette année, pour l'année 2017?
Alors, au projet pour cette année 2017, déjà la date, le 7 octobre, a marqué sur tous les agendas. On va avoir un intervenant de haute qualité, comme toutes les années. Ça sera le docteur Alain Pouette, qui vient de la côte atlantique, qui connaît très très bien les troubles 10. On va avoir aussi le retour grand public, parce que la région va donc écrire un livre blanc avec tous les participants des assises. Ce livre blanc va être remis au président de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisqu'on a 3 élections cette année. Et il y aura un retour grand public qui sera fait lors de la journée des 10. Et puis il y aura d'autres choses, il faut venir pour connaître. On aura bien évidemment les chercheurs, l'éducation nationale, le ministère de l'Agriculture et tout un tas d'autres stands.
Finalement, le mot de la fin pour vous, ce serait quoi?
Que les 10 sont une richesse avant tout et que si on est bienveillant envers eux et plus généralement bienveillant envers tous les enfants vont nous faire des surprises extraordinaires et c'est notre avenir. Donc il faut vraiment, vraiment que la bienveillance soit le maître mot.
Où est-ce qu'on peut trouver peut-être des informations sur vous, sur les troubles 10, si jamais certains sont intéressés?
J'invite toutes les familles à se rapprocher des associations de familles. Il y en a presque dans tous les départements de Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, pour nous trouver, on a un Facebook et puis aussi le site de la Journée des 10. D'ici un mois, on va mettre les premières informations sur la JND dans le département du Rhône, mais la JND se fait aussi dans tous les départements par les associations qui le veulent.
Et on ne manquera pas de relayer, bien sûr, toutes ces informations. Merci beaucoup, Nicole Philibert. On rappelle que vous êtes coprésidente de l'association Distinguons-nous.
Je vous remercie.